Un livre entier pourrait être écrit sur les principes de la fermeté dans l'amour pour les personnes qui ne sont pas mariées. Le problème, c'est que beaucoup d'entre elles ont une telle envie de se marier que dans leur relation amoureuse, elles enfreignent les lois les plus élémentaires de la liberté et du respect, ce qui équivaut à éteindre un feu déjà vacillant avec une lance à incendie. Il n'en restera que de la fumée et des cendres. Dans quelques instants, le docteur Dobson nous suggérera des principes simples qui aideront les célibataires à considérer et à développer des relations dans l'espoir qu'elles conduiront un jour au mariage. Alors, restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La famille aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet. J'ai le plaisir d'être avec vous pour notre émission de La famille aujourd'hui. En compagnie de notre invité, le docteur Dobson, conseiller familial et auteur bien connu. Docteur, nous avons tous été célibataires durant la première partie de notre vie sans que nous y attachions une importance particulière. Mais lorsqu'on atteint un certain âge ou une certaine position dans la vie, beaucoup se sentent très embarrassés de ne pas être mariés et ils commencent à désespérer. Comment peut-on éviter les erreurs courantes que ce désespoir peut nous pousser à commettre dans nos relations ?
C'est une excellente question, Pascal, et davantage de personnes devraient se la poser. J'ai entendu parler d'un jeune homme déterminé à gagner l'affection d'une jeune fille alors que celle-ci refusait même de le voir. Il a décidé de lui écrire pour trouver le chemin de son cœur. Au début, il lui écrivait une lettre d'amour tous les jours, sans réponse. Alors, il a décidé d'augmenter la fréquence à 3 notes amoureuses par 24 heures. Mmh. En tout, il lui a envoyé plus de 700 lettres. Et elle a fini par épouser le facteur.
Ce sont des choses qui arrivent.
Eh oui, l'amour romantique est une des rares démarches humaines qui réussit le mieux lorsque l'effort est le moindre. Ceux qui s'y appliquent le plus sont ceux qui risquent le plus d'échouer. Et pour parler de ceux qui font les plus gros efforts, je crois que personne ne pourra jamais battre un dénommé Keith Ruff, dont l'histoire a paru dans le Los Angeles Times il y a quelques années. Voici ce que racontait l'article en question. Un homme follement amoureux, cloîtré dans une chambre d'hôtel à Washington, lui coûtant $200 la nuit, a dépensé, selon les dernières estimations, près de $20,000 pour prouver à sa bien-aimée qu'il ne se contenterait pas de la réponse négative reçue à ses propositions de mariage.
Ouh.
Le jour de Noël, Keith, âgé de 35 ans, autrefois courtier à Beverly Hills, avait demandé en mariage Karine Bolstein, âgée de 20 ans, qui était serveuse dans un restaurant de Washington. Il l'avait rencontrée durant l'été dans un magasin de chaussures et ils étaient sortis ensemble quelques fois pendant les 2 mois précédant la demande en mariage. Mmh. En réponse à sa proposition faite à genoux, elle lui a opposé un refus. Depuis, Ruff s'est installé à Washington et lui a amplement exprimé son désir de l'avoir changé d'avis en lui envoyant tous les cadeaux possibles et imaginables. « Je suis, déclare-t-il, sur le point d'avoir dépensé tout mon argent » et je ne suis pas un millionnaire. L'article énumère ensuite 15 des nombreux présents offerts à sa bien-aimée et à ses parents dans l'espoir de la faire changer d'avis, mais sans succès.
Est-ce qu'il prévoyait l'assiéger encore longtemps avec toutes ses attentions ?
Apparemment, oui. Il a déclaré « Peu importe combien de fois elle dira non, pour elle, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, à condition que ce ne soit pas absurde ou illégal. Je ne m'arrêterai même pas si elle entre dans un couvent. »
Et quelle a été la réaction de la jeune femme à tout cela ?
Oh, elle a déclaré être flattée, mais trop jeune pour se marier. Elle a aussi dit que son appartement ressemblait à un centre funéraire avec toutes les fleurs qu'il lui avait envoyées. Il y a plusieurs choses que M. Ruff devrait apprendre au sujet des femmes s'il n'a pas encore compris le message de Mlle Bolstein. Il pourrait encore se lamenter pendant 15 ans dans sa chambre d'hôtel sans faire naître chez elle le moindre signe de sympathie à son égard. Très peu de femmes sont attirées par un homme qui se met à plat ventre devant elles, qui supplie, cherche à les acheter, se lamente et se rend ridicule aux yeux de tous.
C'est vrai.
Et dites-moi un peu, Pascal, qui voudrait épouser un original sans ambition, qui rampe à vos pieds comme un chien battu ? Adieu le romantisme et bonjour la misère. À une plus petite échelle, bien sûr, bon nombre de célibataires commettent la même erreur. Ils révèlent leurs espoirs et leurs rêves trop tôt dans la relation et font fuir bien des partenaires potentiels. Les personnes divorcées tombent aussi dans ce piège, et en particulier les femmes seules qui cherchent le soutien d'un homme pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Les candidats à une telle tâche sont rares et parfois ils sont recrutés comme des athlètes.
J'ai sous les yeux un exemple d'une telle situation. Il s'agit d'une lettre également publiée dans le Los Angeles Times, dans une rubrique intitulée « Vivre avec le divorce ». Voici cette lettre.
Oui.
Je suis un homme divorcé depuis peu, avec une bonne profession et un problème assez particulier. Une femme avec qui je suis sortie une seule fois m'a téléphoné avant même que j'aie eu le temps de fixer un nouveau rendez-vous. Elle voulait savoir pourquoi je ne l'avais pas rappelée. Dès notre deuxième sortie, elle a commencé à me téléphoner presque chaque jour pour m'inviter à dîner ou partager quelque chose de drôle qu'elle venait de lire, pensant que ça me plairait, etc., etc. Ce qui est fou dans tout cela, c'est que la même expérience est en train de se reproduire avec une autre femme dont je viens tout juste de faire la connaissance. Si ce comportement est généralisé parmi les femmes, alors j'aurais peut-être mieux fait de rester mariée. Comment puis-je me débarrasser de ces relations frénétiques et simplement mener une vie sociale calme et agréable ?
Bon, ce qui se passe ici est clair. Les femmes qui sortent avec cet homme bien établi le poursuivent comme un chien de chasse traque le gibier. Et son instinct naturel, c'est de fuir. Alors si elles veulent vraiment l'attirer, il leur suffit de ne pas envahir son territoire. Elles devraient plutôt garder une certaine retenue dans leur réaction. Il est essentiel, lors de n'importe quel rendez-vous romantique, de veiller à conserver une certaine dignité, un respect de soi. J'ai constaté que beaucoup de relations tournaient mal simplement à cause d'une caractéristique universelle de la nature humaine qu'on oublie. Nous apprécions les choses que nous choisissons et obtenons librement, mais nous méprisons celles qu'on essaie de nous imposer.
Je crois savoir que vous avez découvert ce principe dans votre propre vie, n'est-ce pas ?
Effectivement. Je l'ai découvert au début de ma relation avec Shirley, mon épouse. À l'université, lorsque nous nous sommes rencontrés, elle était seulement une petite débutante de première année, et moi, j'en étais déjà à ma dernière année. À mes yeux, j'étais quelqu'un sur ce campus, et ma relation avec cette jeune étudiante n'avait guère d'importance pour moi. De son côté, elle avait beaucoup de succès parmi les garçons et le détachement que je manifestais à son égard l'a mise au défi. Elle voulait me conquérir surtout parce qu'elle n'était pas sûre d'y arriver. Mais son enthousiasme a quelque peu diminué mon intérêt. Après l'obtention de mon diplôme, nous avons eu une de ces longues conversations propres à tous les amoureux du monde. Je lui ai dit que je tenais à ce qu'elle ne se prive pas de sortir avec d'autres garçons pendant que je serai au service militaire, puisque je n'avais pas l'intention de me marier tout de suite. Je n'oublierai jamais sa réaction. Je m'attendais à ce que Shirley se mette à pleurer et s'accroche à moi. Au lieu de ça, elle m'a déclaré « Tu sais, j'ai eu la même pensée, et je crois bien que j'aimerais sortir avec d'autres garçons. Alors, pourquoi ne pas aller chacun de son côté ?» pour l'instant. Alors sa réponse m'a ébranlé. Pour la première fois dans notre relation, c'était elle qui s'éloignait de moi. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que Shirley a courageusement fermé la porte d'entrée et puis elle a pleuré toute la nuit.
Mais alors, comment vous êtes-vous retrouvés ?
En bref, quand je suis rentré du service militaire, 2 ans plus tard, nos positions s'étaient inversées. C'est elle qui était distante. Et moi, j'étais impatient, prenant cette relation à cœur. Puis un jour, après un rendez-vous particulièrement mal réussi, j'ai compris l'erreur que je faisais. J'ai pris le temps de réfléchir et j'ai noté 10 changements que je voulais apporter à notre relation. Tout d'abord, j'étais déterminé à conserver ma dignité et mon respect personnel jusqu'au bout, même si je devais perdre celle qu'à présent, j'aimais tellement. Ensuite, j'allais souligner cette nouvelle attitude chaque fois que j'en aurais l'occasion pour dire « Tu sais, j'ai un but dans la vie et je compte vraiment l'atteindre. Je t'aime et j'espère que tu choisiras de m'accompagner. Si tu es d'accord, je me donnerai à toi et j'essaierai de te rendre heureuse. Mais si tu décides de ne pas faire ce voyage avec moi, je ne peux pas t'imposer ma volonté. C'est toi qui décides et j'accepterai ta décision. » Il y avait aussi d'autres points sur ma liste, mais ils étaient tous en rapport avec la confiance en soi et l'indépendance.
Et que s'est-il passé lorsque vous avez essayé cette nouvelle approche avec elle ?
Eh bien, un soir, que nous roulions silencieusement en voiture, Shirley m'a demandé de m'arrêter. Elle a mis ses bras autour de mon cou et m'a dit « J'ai peur que je sois en train de te perdre et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Le clair de lune me permettait d'apercevoir ses yeux remplis de larmes. Elle ne pouvait évidemment pas entendre combien mon cœur battait fort pendant que je lui expliquais les raisons de mon comportement. Mais voyez-vous, j'avais réussi à relancer le défi pour Shirley. Et elle y avait répondu de façon merveilleuse.
Eh bien, si cette fermeté dans l'amour vous a réussi, elle peut sûrement réussir à d'autres. Mais comment nos auditeurs célibataires peuvent-ils appliquer ce principe dans leur propre vie ?
J'ai plusieurs suggestions à leur faire, qui, je l'espère, les aideront à vivre selon les principes de la fermeté dans l'amour dans toutes leurs relations. Tout d'abord, ne laissez pas la relation se développer trop vite au début. Avancez un pas après l'autre.
Je crois que nous avons tous été témoins d'une situation de ce genre.
Encore une chose très importante. Les amoureux prudents testent constamment leur relation, un peu comme s'ils jouaient avec l'appât avant de l'avaler. Cette mise à l'épreuve peut revêtir plusieurs formes. En général, elle comprend un certain éloignement de l'autre pour voir ce qui va se passer. Cela peut être le déclenchement d'une dispute ridicule ou même un flirt avec un ou une rivale. Dans chaque cas, c'est comme si l'autre posait la question « Quelle importance ai-je à tes yeux et comment réagirais-tu si tu me perdais ?» Mais derrière cette question se cache une autre plus profonde encore, cherchant à savoir jusqu'à quel point suis-je libre de te quitter si je le souhaite. Dans une telle situation, il est extrêmement important de paraître calme, posé et tout aussi détaché et indépendant que l'autre. Ne vous accrochez pas, ne suppliez pas. Certaines personnes restent célibataires toute leur vie parce qu'elles n'arrivent pas à résister à la tentation de se mettre à genoux pour supplier l'autre de ne pas les quitter dès que la relation est mise à l'épreuve. Et pour terminer, ne vous attendez pas à ce que qui que ce soit puisse répondre à tous vos besoins émotionnels. Conservez des intérêts et des activités en dehors de votre relation amoureuse, même après le mariage.
Bien que cela puisse paraître difficile lorsque les émotions sont intenses, toutes les relations, que ce soit entre personnes mariées ou entre célibataires, seront renforcées par l'application de la liberté et du respect de soi que nous trouvons dans le principe de la fermeté dans l'amour. Une certaine indépendance, un peu d'autonomie, sont des qualités très attirantes, en particulier lorsqu'un partenaire est devenu prudent suite à des expériences du passé et hésite à trop s'engager. Comme l'a souligné le docteur Dobson dans cette émission, personne n'est attiré par un individu qui se lamente, qui se rabaisse lui-même et qui semble incapable d'assumer un refus, même léger, sans parler d'un rejet total. Vous devez conserver votre respect personnel et votre dignité pour construire une relation durable, que ce soit simplement pour des fréquentations ou que vous soyez déjà marié. Cette émission a été réalisée par La Famille Aujourd'hui avec des éléments tirés du livre « Love Must Be Tough » publié par World Books. Un titre que nous pourrions traduire par « L'amour doit être ferme ». Erskine Faloudi prêtait sa voix au docteur Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous retrouver bientôt pour une autre émission de « La famille aujourd'hui ».